Vous écoutez France Culture. Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et bonne manière de commencer l'année avec la suite de cette série consacrée à Philippe Solers. Hier et avant-hier, Philippe, vous nous avez parlé de votre travail d'écriture et ce soir, vous avez accepté mon invitation d'inviter une personne de votre choix et nous sommes très heureux ici à Hors-champ de recevoir Julia Kristeva. Alors Julia, première question, de quoi est fait le nom de Philippe Solers et de qui est-il le nom ?
C'est un nom qui vient de la mythologie grecque et qui est l'adjectif qui caractérise Ulysse et qui vient nous dire dans une société qui travaille avec des éléments de langage que tout est ruse, habileté, intelligence.
Mais il ne s'appelait pas Solers quand vous l'avez rencontré ?
Si, il s'appelait déjà Solers, bien sûr.
Ah, il très jeune donc.
Écoutez, moi je l'ai rencontré quand il avait déjà 36 ans, ou presque. Et nous étions tous les deux très jeunes, mais il avait déjà une biographie avec lui, derrière lui, une vie sexuelle, érotique, sentimentale, et surtout une vie d'écrivain avec le nom de Solers, absolument.
Comment vous êtes rencontrés ?
Alors, moi, je suis arrivée en France à la veille de Noël 66 et nous nous sommes rencontrés très vite au début de l'année 67. Moi, j'étais une exilée de Bulgarie, un pays de l'Est que le général de Gaulle voyait déjà dans une grande Europe qui se construisait, selon lui, de l'Atlantique à l'Oural. Il donnait des bourses et c'est pour cette bourse que je suis venue en France pour faire une thèse sur le nouveau roman. Mais très vite, je me suis rendu compte que je serais une exilée et que je ne rentrerais pas en Bulgarie et que en France non plus, je ne m'installerais pas. Ni dans l'université, ni dans un boulot, ni dans un jury littéraire, ni dans mes zones érogènes, ni dans les lettres françaises. Il m'a semblé important de trouver un horizon, pour dire ça de manière un peu elliptique. Quelque chose d'ouvert et qui me remet en question. Et j'ai rencontré un jour cet horizon en feuilletant le journal de la jeunesse communiste Clarté, où j'ai vu le portrait d'un jeune homme extrêmement séduisant, parce que quand on est jeune fille, il faut quand même être séduit par un jeune homme, mais surtout, il s'exprimait sur la littérature en des termes qui m'ont paru d'une grande intensité, d'une grande nouveauté. Et ce jeune homme s'appelait Philippe Solers, et je l'ai rencontré pour ses deux qualités d'élégance et de force de footballeur que je ne pensais pas trouver dans les lettres françaises et dans aucune littérature. D'ailleurs, les écrivains ont un côté un peu chétif, un peu parcheminé, comme ça, un peu rat de bibliothèque ou de rien du tout.
Donc vous avez cherché à le rencontrer ?
Et je l'ai rencontré, oui, j'ai cherché à le rencontrer. Nous sommes vus aux éditions du Seuil, où se trouvait à l'époque le bureau de Telquel. Et nous ne nous sommes plus quittés.
Coup de foudre.
En quelque sorte. Mais surtout, je voudrais insister parce que le coup de foudre renvoie à quelque chose de mystique et d'informulable, alors qu'il m'a semblé tout de suite extrêmement intéressant dans son expérience le fait qu'il fait de la littérature pas comme les autres. Et qu'il y avait là un enjeu absolument essentiel, on disait à l'époque révolutionnaire, mais ça l'est toujours, qui consiste à bousculer le sommeil des lettres. et qui consiste en fait à donner une effervescence du langage qui balaye les genres. C'est de la poésie, c'est du rêve, c'est du récit, c'est de la philosophie, pour remettre en cause nos propres limites. C'est pour ça que ma recherche de l'horizon se retrouvait là. C'est une extraordinaire effervescence de langage. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a écrit des livres comme Nombre, Loi, sur lesquels je voudrais dire quelques mots tout à l'heure, qui se prolongent maintenant sous une forme beaucoup plus apparemment classiquement romanesque, où il y a plus de personnages coagulés, un homme, femme, amant, situation historique, etc. Mais cette recherche du roman de la pensée, du roman du langage, continue à être le cas. Et on appelait ça à l'époque l'écriture, on peut l'appeler expérience intérieure, pourquoi pas mystique. J'ai croisé ça avec d'autres moments de la littérature mondiale et française à travers les siècles. Mais c'est quelque chose d'inclassable et qui donne une respiration à la littérature. Et c'est pourquoi je crois qu'il est tout à fait à la fois fascinant aujourd'hui, impensable, les gens n'arrivent pas à le caser dans des catégories, et toujours une promesse de cette espèce de sommeil des étagères et des écrans où on nous vend du somnifère sous forme de roman. Et donc c'est pas du tout ça, et ça a toujours été quelque chose qui nous a accompagnés. Donc le coup de foudre est un coup de foudre dans la culture.
Alors vous ne savez pas, Julia, que hier Philippe Solers a parlé de vous en disant qu'il aimait bien de temps en temps être Monsieur Kristeva.
Ça, je ne sais pas s'il l'aime vraiment. Vous savez qu'il est très drôle, il est extrêmement coquin et comédien. Avec notre fils David, on l'appelle le Molière d'aujourd'hui parce qu'il n'arrête pas de faire des blagues. Mais il prétend, je ne pense pas que ce soit si fréquent, que quand on va aux États-Unis et même à Paris de temps en temps, des étudiants américaines débarquent et sonnent à la porte et vous êtes Monsieur Kristeva. Donc il est en extase, mais c'est une extase très dramatique, il n'est pas
c'est
content
rare.
Du tout.
Oui. C'est rare, les hommes qui aiment se faire appeler du nom de leur femme, Philippe Solers.
Écoutez, oui, mais il y a des intérêts à ça. Si Julia vient me voir, on commence à parler, elle se présente comme universitaire, mais en réalité, tout de suite, je me rends compte qu'elle a une dimension extraordinaire. Je croyais qu'elle allait tenir des discours universitaires, mais elle me parle tout de suite des surréalistes et des formalistes russes qu'elle a d'ailleurs introduits en France. Bref, on finit cet entretien et on va dîner et on ne se quitte plus, elle a raison. Cela dit, c'est devenu, avec le temps, avec une force de travail que je n'ai jamais rencontrée, ou très rarement, hein, très rarement, chez les hommes comme chez les femmes, hein, force de travail considérable. Elle a obtenu petit à petit une notoriété considérable, notamment dans les pays anglo-saxons, mais enfin sur la planète en général, elle revient de Chine, où elle est applaudie, etc. Il n'y a qu'en France, et c'est pour ça que c'est un problème très important de voir qu'elle est mal reçue. C'est un problème de femmes un peu supérieures qui sont très mal considérées.
Enfin,
aujourd'hui,
nous, on l'aime et on l'admire.
Aujourd'hui, vous avez Bordeaux qui se signale toujours par une avancée dans l'ordre de l'esprit, qui vient de nommer une bâtonnière par les magistrats. Et il y a eu des ploucs magistrats qui, ce matin même, disaient « Oh, bon, pour une femme bâtonnière, mais une femme n'a pas les épaules assez larges pour traiter du pénal, etc. » Bon, voilà. Les Français ont un problème. Alors, moi, je n'ai pas ce problème du tout.
Féministe, Solers ?
C'est, le mot est trop faible. Moi, je suis un aventurier. Par conséquent, si ma femme, c'est ma femme, oui, si vous voulez, 40 ans de mariage, c'est quand même pas rien. On voulait faire un livre qui s'appelait « Du mariage considéré comme un des beaux-arts ». Le titre est très bon, surtout en cette période très, très chahutée sur le mot de mariage. Enfin, si je vais à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique, pour ne parler que de New York ou de Washington, je suis absolument barré par l'université américaine et par les médias américains. Je suis tout French,
pas Julia.
Trop français. Elle, c'est une star. Par conséquent, je profite d'elle, c'est mon intérêt. Je m'installe chez elle, elle a des appartements, elle est très bien traitée par l'université, c'est une star. Prix Holbert, prix Nobel.
Et ça vous fait plaisir.
Et écoute, je fais gigolo chez ma femme. Et donc, c'est pas tout le temps.
Quelle plus belle position.
Eh bien, écoutez, c'est assez.
Il n'y en a pas.
Et Et voilà, c'est comme ça. Donc, on a été très heureux à New York, on a été très heureux à Washington, magnifique, magnifique végétation. Et c'est un enchantement d'être monsieur
qui s'y va. Quand Julia part en Chine, vous ne l'accompagnez pas. Hein.
Ben, écoutez, pas pour l'instant, mais enfin, ça viendra.
Mais écoutez, tout ça est rendu possible par au moins deux choses. La première, pour aller dans le sens de la critique de notre société, je ne sais pas si elle est très antiféministe, sûrement, comme toutes les sociétés, mais elle est aussi très réticente par rapport aux étrangers. Je l'ai dit dans un de mes livres, nulle part on est plus étranger qu'en France et nulle part on est mieux étranger qu'en France. Parce qu'il y a néanmoins ce débat et le fait que vous nous invitez aujourd'hui pour parler de cette relation à une femme étrangère, prouve que ça peut être pensé, ça peut être mis en question et ça peut se développer, cet accueil de la femme étrangère. Mais ça, c'est peut-être moins intéressant aujourd'hui. Pour répondre à votre invitation, j'ai pensé surtout que le moment était bon pour moi de dire comment je le lis. Parce que Soler, c'est quelqu'un qui parle beaucoup à la télévision, on le voit un peu
peut-être
partout.
Peut-être trop.
Moi, je ne trouve pas.
Jamais
pas assez,
trop.
Pas assez. Mais il a, dans cette effervescence de langage dont je parlais tout à l'heure, j'aimerais reprendre un livre dans lequel on voit, on entend, mais on la voit aussi parce que c'est très coloré, cette effervescence de langage. Il est aussi quelqu'un d'extrêmement concis. Il invente des mots qui résument un peu son existence et son rapport avec les femmes aussi, parce que c'est votre sujet. Il y a deux mots qui me frappent beaucoup, « oublu » et silencieux. Alors, il dit qu'il est. On vous a lu, oui, vous m'avez lu, mais vous m'avez oublié. Donc, on l'oublie facilement parce que vous allez voir pourquoi. Parce que c'est une langue qui remue les entrailles, qui remue tous les sens, qui remue la pensée. Et si vous n'arrivez pas à suivre ça, ben vous abandonnez et vous somnolez. Et silencieux, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça renvoie à des moments qu'il saisit dans leur relation amoureuse et en particulier dans un livre qui s'appelle oui, L'étoile des amants. C'est le moment où les deux personnes se retrouvent dans le noyau du temps, une espèce de temps nucléaire qui ne peut pas se dire et qui comporte des silences. Et il appelle ce temps-là d'un mot, d'un verbe silencieux. Ça me paraît très juste parce que ce n'est pas quelqu'un qui raconte ses histoires amoureuses. Il les condense, il les suggère, il les silencie, il faut le déchiffrer. Et quand il vous parle de M. Solers, Mme, M. Kristeva, etc., il y a beaucoup de silencieux dedans. Mais pour ce qui est de l'effervescence de langage, je voudrais commencer peut-être par les premiers romans que j'ai lus de lui. Après Drame, il y a eu un qui m'est consacré parce qu'on voit la dédicace en lettres cyrilliques pour Yulia et dans lequel l'ensemble du texte est un langage poétique, onirique qui décrit cette effervescence des mots pour nous faire entrer de la surface des choses à nos corps. Vous permettez que je lise deux phrases qui sont longue et pas ponctuée, ça va se complexifier encore dans Paradis. Et la voix disait cela maintenant, et c'était bien ma voix s'élevant de la vision colorée, ou plutôt du fond brûlant des couleurs, ma voix que j'entendais moduler une conjuration fluide, pressante, où les voyelles se suivaient, s'échangeaient et paraissaient s'appliquer au texte à travers mon souffle. Leur suite agissait directement sur chaque détail, repoussait les éléments hostiles, formait une chaîne rythmée, un spectre qui rassemblait et distribuait les rôles, les faits et ce jeu m'employait comme une figure parmi d'autres. J'étais simplement pour lui un grain soulevé, lancé. La formule pourrait s'énoncer ainsi. Ioui, Yulia. C'est mon slave, à condition de lui imprimer aussi une ondulation constante, quelque chose d'ivre, et etc. Cette langue qui se fait et qui se défait à travers les voyelles, à travers les sons, on va la retrouver jusque dans sa manière de traverser l'histoire de la culture sous la forme d'articles, apparemment, qui sont réunis dans fugues.
On trouve donc l'avant-dernier ouvrage publié.
Voilà, qui est un recueil de textes publiés dans différents supports et qui s'adresse à des moments importants de l'histoire culturelle. Ça peut être Pascal, ça peut être Shakespeare, ça peut être Lacan ou Sartre, etc. Mais il les saisit dans des détails, on peut peut-être en donner quelques exemples tout à l'heure, qui résument à la fois les biographies de ces personnes et l'essentiel de leur écriture. Et en même temps, il projette beaucoup de soi-même dans ces textes. Ce qui fait que ça donne un roman aussi. Son écriture théorique d'essayiste est un roman. Et d'ailleurs, je donne cet exemple parce que ça montre combien l'ambition de réformer le roman est présente tout au long de son écriture. Il dit ceci dans Fugue, justement. Il dit « C'est cela un vrai roman, un livre où l'on peut suivre pas à pas l'histoire coincée des vies individuelles aujourd'hui. » Voilà, les gens écrivent des romans pour raconter l'histoire coincée des vies individuelles. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. C'est ce que j'essaye de faire, dit-il, est tout autre. D'où une incompréhension assez partagée, mais cela n'a aucune importance. J'essaye de rendre le romanesque de pensée, de vie, dans ces aventures que j'appelle celles du voyageur du temps. J'ai donc la prétention de faire le vrai roman de mon époque. Donc en déplaçant cette effervescence jusqu'à l'histoire de la pensée et après dans ses propres romans plus récents, il traduit quelque chose d'essentiel à la pensée européenne qui est de mettre en question, de se mettre en question et de mettre en question les genres aussi. Mais dans les derniers textes, en restant quand même près de quelque chose que demande la société du spectacle, c'est-à-dire des caractères, des intrigues, d'où le fait que le roman s'est imposé plus à la surface.
Philippe Solers.
Oui, ce qui me frappe là, c'est la façon dont Julia vient de lire un passage où je décline au fond son nom. C'est-à-dire que... la voilà tout à coup en muse, c'est-à-dire son prénom, Julia, enfin, il y a le caractère cyrillique, donc là on a déjà affaire à une langue étrangère. J'insiste sur le fait que le français, poussé à une certaine précision, est capable de passer à travers toutes les langues. Alors, je ne suis pas vraiment un virtuose du bulgare, du russe ou des langues slaves, ni d'ailleurs de l'anglais, ni moi je suis meilleur en espagnol, c'est mon premier livre, ou en italien, mais il me semble que le français a une caractéristique, une force de traduction considérable, que ce soit pour le chinois. Je veux dire que le français, au moment même où on pourrait prétendre que c'est une langue morte, qui n'est plus enseignée, qui n'est plus comprise, etc., au contraire, je crois que c'est une splendide expérience d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même étonnant de voir que toute l'histoire est à notre disposition. On peut fouiller partout. Jamais un être humain n'a eu en possession une possibilité de connaissance sur l'histoire comme aujourd'hui, au moment même où l'histoire, on vous déclarera qu'elle est finie, qu'elle est évacuée, et où il est facile de vérifier, non seulement que les gens ne lisent pas, mais oublient, mais que l'histoire est évacuée de leur vie. Ils ont affaire à leur petite vie, provinciale en général, avec des embarras sexuels considérables, et au fond, ils ne savent pas très bien où ils sont situés dans l'histoire. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est prendre un petit personnage qui s'appelle Solers, microscopique.
Qui n'est pas forcément vous, on n'est pas dans l'autofiction.
Non, mais qui est là, qui a son histoire, personnelle, mais dans la grande histoire. Et donc, l'histoire personnelle doit être insérée dans la grande histoire. Donc, vous êtes aujourd'hui dans une situation extraordinaire. Vous avez droit à des enregistrements de musique comme il n'y en a jamais eu depuis 30 ou 40 ans. On ne jouait pas Mozart au début du XXe siècle. Vous avez tout Mozart. Vous avez toute la bibliothèque qui vous parle si vous voulez. Il y a un de mes livres qui commence comme ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a un livre qui sort de la bibliothèque et qui me choisit comme lecteur d'un mort qui est plus vivant.
Comment ça, vous choisi ? Ben, comment le livre vous choisit ?
Par exemple, là, je me rappelle très bien, c'est une sorte de vision que j'ai eue. Il y avait Cyrano de Bergerac dans ma bibliothèque. Tout à coup, Cyrano de Bergerac qui me sort et me demande de parler en son nom. C'est-à-dire, les morts sont plus vivants que les vivants. Voilà l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui. Les morts, les pauvres morts, comme dit Baudelaire, ont de grandes douleurs. C'est pas qu'ils ont de grandes douleurs, c'est sûr, mais surtout oubliés comme ils sont, négligés comme ils sont, falsifiés comme ils sont, réduits, embellis.
Et vous les faites revivre.
Et moi, je les vois, ces morts.
Ils vous appellent.
Je suis comme dans Shakespeare, comme dans les grands romans initiatiques et les mythes. Je descends non pas aux enfers et je vois, ils me parlent. Et la bibliothèque vous parle alors, ben oui, elle vous parle en latin, en grec, en hébreu s'ils le font, en chinois, pourquoi pas. Les morts vous sollicitent, ils vous appellent. Et les vivants sont très criminels de ne pas les écouter.
Vous avez combien de livres dans votre bibliothèque ? Vous avez une bibliothèque commune ou chacun fait bibliothèque à part ?
Oh là là.
Julia et Philippe ?
On a des bibliothèques à part, mais il y a des endroits où ça se croise. Il y a certaines choses qui sont communes.
Il y a beaucoup de livres, oui, énormément. Énormément et très très sélectionné, très dans un grand désordre.
Des livres enfouillis ou
parce
des livres
on ne vit...
très classés.
Je sais où ils sont tous, oui. Je sais, d'emblée. Et encore une fois, classé n'est pas un mot que j'emploierai. Je vous dis, c'est tout à coup, il y a un livre qui appelle. Comme c'est curieux, les livres sont vivants, comprenez-vous. Ils sont pas morts. Et c'est les passants du jour qui sont morts. Les livres sont absolument vivants. J'ouvre un livre de poésie, bon, je sais qu'à un moment donné, Baudelaire veut me parler, et je vais avoir Baudelaire. Ah, voilà, ou je vais avoir Shakespeare, ou je vais avoir Rimbaud, ou je vais avoir Mallarmé. Oh, voilà, penser, écrire sans accessoires. Oh là là, mais alors, mais qu'est-ce que la pensée ? Qu'est-ce que c'est que penser ? Qu'est-ce qui nous appelle à penser ? Comme dit ce penseur maudit qui s'appelle Heidegger, on pourrait y rester 3 heures si vous voulez. Qu'est-ce qui nous appelle à penser ? Voilà, nous ne pensons pas encore. Voilà, nous ne pensons plus.
Alors, le roman est une manière et la voie cardinale pour penser.
Oui, et les romanciers sont souvent extrêmement déficients.
Vous faites le roman de la pensée, comme a dit tout à l'heure Julia.
Mais oui, mais regardez ce qui s'est passé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Nombre. Il y a eu tout de suite des penseurs pour s'y intéresser. Il y avait déjà Drame avec Barthes. Ensuite, il y a eu Julia et Derrida.
Oui,
voilà.
Oui.
Et il y a un livre de Derrida qui s'appelle La Dissémination, qui comporte 90 pages, qui donne son titre au livre. Le commentaire philosophique est traduit partout, mais l'original dont il commentait ne l'est pas. Par conséquent, il y a des étudiants américains ou des étudiantes américaines qui lisent sans arrêt du Derrida où il n'est question que de moi, mais qui ne peuvent pas se reporter au texte original. Voilà par exemple un exemple.
Oui, Julia. Non, mais en écoutant ce que dit Philippe Solers en ce moment, je pense au fait que comment il choisit ses livres vivants dans les bibliothèques dont il parle. Nos livres ne sont pas rangés de la même façon. En effet, Port-Royal, qui était notre ancien appartement et qui est devenu maintenant son lieu de travail, vous ne pouvez pas entrer dedans, dans la pièce où il y a les livres, parce que ça s'accumule jusqu'au plafond. Et je ne sais pas comment il les choisit, comment ses vivants l'appellent.
Je ne choisis pas, c'est eux qui me choisissent.
Voilà, donc je vais donner ma version de ton choix. Par contre, chez nous, c'est maintenant la rue d'Assas, tout est très bien classé, même si je me perds
professeur
un peu dans les classements. Donc je sais où se trouvent les livres. Mais ce qui me frappe dans son choix, c'est que dans sa manière de lire, ça passe toujours par le corps. Il y a une expérience physique, il est extrêmement physique.
Dans tous les romans aussi, d'ailleurs.
Voilà, oui, mais dans sa manière de lire aussi, et à partir de perceptions, de traumas ou des extases, si vous me permettez l'hyperbole sensorielle, il va choisir dans tel livre, tel extrait, qui s'avère tout à coup extrêmement important pour l'auteur dont il s'agit, même si c'est quelqu'un que tout le monde a commenté depuis la nuit des temps, de Pascal à Shakespeare et jusqu'à Sartre, il va trouver les citations qu'il faut et qui nous révèlent cet auteur, mais parce qu'elles parlent de lui. C'est pourquoi quand on a son écriture romanesque en fugue, en texte musical et qui décompose la langue que j'ai lu tout à l'heure dans Nombre et jusqu'à maintenant, sollicite le corps d'abord, le sien et celui du lecteur. Et c'est pourquoi ça nous a interpellé quelques-uns des théoriciens. Tu as appelé tout à l'heure le texte de Derrida. Mais ce que Derrida a vu là-dedans, c'est la dissémination, c'est-à-dire le côté fragmenté et fragmentant de cette écriture qui vous sollicite de partout, qui va dans tous les sens, qui s'aime à tout vent, etc. Et il voulait à partir de là s'affranchir un certain nombre de clichés, de dictats, de dossifications de la culture occidentale.
Ça, c'est au niveau de la syntaxe, mais pas seulement.
De syntaxe et des thèmes. Alors que moi, ce qui m'a intéressé, j'appelais ma lecture de Nombre, donc Nombre, texte de Derrida qui s'appelle Dissémination et qui a été très répandu dans l'université. Moi, j'ai appelé ça l'engendrement de la formule, avec le sens d'engendrement qui est très physique, très corporel, et comment il arrive à une formulation qui passe par une histoire des langues, par une histoire de ses rêves aussi, pour arriver à transmettre des messages. Donc c'est tout ce travail, je le trouve aussi dans ses choix des textes.
Vous a-t-il autorisé à écrire dans le registre du romanesque, Julia Kristeva?
Ah ça, tout à fait, oui. Même par moments de manière hyperbolique. Je me souviens quand je commençais à écrire mon premier roman qui s'appelle Samouraï, on allait à la plage de l'île de Ré, qui s'appelle La Conche. Il me disait, ah ben tu vas voir, tu vas écrire un truc amoureux, ça sera mieux que l'amant de Duras. Alors, évidemment, c'est pas du tout dans les mêmes dimensions ni dans les mêmes tirages, mais il est extrêmement porteur. Et le dernier qui est une sorte de romanesque, lui aussi pas classique, qui est Thérèse Mon Amour sur l'expérience mystique de Thérèse d'Avila, qui est un gros livre de 700 pages. Il a lu dans les points et les virgules, avec énormément de conseils extrêmement pratiques.
Notamment à propos de l'espagnol. Porque hablo español muy bien.
Tu parles espagnol, mais ce n'était pas seulement l'espagnol. C'est l'expérience en question qui consiste à aller jusqu'à la perte de soi et de retrouver des miroirs dans l'environnement qui reflètent des moments traumatiques et extatiques de ta propre existence. Oui. Juste un exemple peut-être, alors si vous permettez, dans Fugue. Quand il parle de Lacan, ça commence par dire, enfin ça commence, c'est le moment que je trouve
j'aime
moi
bien
le plus
titre,
fort.
J'aime bien le titre.
Le corps de Lacan en train de parler. Le corps sort de la voix et pas le contraire. Bon, mais ça, personne n'a vu ça. On pense qu'il y a le corps qui fait une voix et pas une voix qui fait un corps. Et c'est très important pour Lacan parce que ça explique pourquoi il donne tellement d'importance aux signifiants, mais ça explique aussi que son corps est créé par le langage et peut-être il y a une défaillance au niveau du corps. Il y a toutes sortes de phénomènes qu'il décrit de Lacan qui se reflètent dans cette phrase. Ou alors quand il dit un grand bourgeois de style aristocratique obligé de vivre au milieu des classes moyennes, tout à coup, on voit une vision de...
Ça le fait rire, c'est bien, Philippe Soler se rit de lui-même.
C'est lui aussi, ah oui. C'est lui, exactement. Il projette dans
la dimension
dans
de l'auto-ironie est à souligner, je crois.
Ou alors, quelque chose qui m'a intéressé en tant qu'analyste, il dit que, de manière très spécifique et très solercienne, ce qui caractérise le discours psychanalytique. L'effet analytique, produire quelque chose de dérangeant. Donc, n'enfermez pas Lacan dans une explication, même si c'est très important. Soulignez en quoi elle dérange, parce qu'être psychanalyste, c'est déranger. Et donc, je me suis demandé, mais est-ce que je dérange tout le temps mes patients? Il faudrait que je les dérange davantage. Donc, c'est des remarques qui sont liées à sa propre expérience du monde, parce qu'il dérange sans arrêt. Et il essaye de trouver chez l'autre qui correspond à ça, et qui du coup donne à cet autre, non seulement la stature d'un personnage romanesque, mais des vérités que les différents commentateurs avaient oublié.
Nous allons écouter la voix de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Ils vont parler du bien et du mal dans la pensée. C'est une archive du 3 novembre 1947. Un extrait de cette émission qui s'intitulait « Les temps modernes » de Jean-Paul Sartre. Lettre d'auditeur et définition de l'existentialisme.
L'impuissance alors dévalorise tout, dévalorise d'abord la pensée. Pourquoi voulez-vous penser puisque vous êtes impuissant? Pourquoi voulez-vous condamner la guerre qui vient puisqu'elle arrivera sûrement? Donc, inutile de penser, comme dit l'un, ce sont des jeux intellectuels. Il dit, faut vous engager plus solidement. S'engager plus solidement, ça veut dire refuser de penser et commencer à taper sur quelqu'un à bras raccourcis, jusqu'à ce qu'on se fasse assommer ou qu'on l'assomme. Et puis alors, vous arrivez comme ça à une idée enfantine. L'idée, vous savez, qu'on a dans les tout petits catéchismes pour les enfants de 6 ans, il y a le bien et il y a le mal. L'un des blocs est le bien, l'autre est le mal. Pas question de penser qu'il y en a un qui a un petit peu plus de choses que l'autre, ou bien qu'il y a des difficultés, que ce sont des hommes qui se débattent, qui peuvent changer. Non, l'un est le bien, l'autre est le mal. Encore une fois, les gens ne sont simplement pas d'accord sur celui qui est le bien et celui qui est le mal. Les gens sont ou tout bons ou tout méchants. Ensuite, naturellement, autrefois, les gens croyaient qu'il fallait construire, patiemment, difficilement. C'était même émouvant, une vie humaine qui consistait précisément à essayer de faire quelque chose. C'était des entreprises diverses. Il y en avait qui faisaient simplement un jardin, il y en avait d'autres qui pouvaient s'occuper de politique, il y en avait qui faisaient leur métier simplement. En tout cas, la vie était une entreprise patiente, difficile, et au bout d'une vie, eh bien, on avait enrichi le monde. Mais maintenant, pourquoi faire? Il y a le bien, il est tout fait. Il y a le mal, il est tout fait aussi. Il n'est plus question de construire patiemment une chose bonne. Le bien est déjà là. Il faut simplement aider le bien à détruire le mal. Il s'agit donc d'exterminer, de démolir, d'écraser. L'impuissance amène à la violence. On ne discute plus avec un adversaire. Pourquoi faire? C'est du temps perdu. On le tue.
Il y a des gens qui sont plus doux et qui ne sont pas tellement tentés par la violence et qui cependant refusent la discussion. Regardez par exemple cette lettre d'un jeune homme qui a l'air cultivé, intelligent et qui refuse absolument toute espèce de raisonnement.
Oui, ça change de lettre d'injure. C'est celui qui parle de la mystique gaulliste. Voici ce qu'il dit. Votre petit jeu est absurde et cruel comme un jeu de gosse. Vous emmenez un mystique sur le plan intellectuel et vous le laissez là comme un marsouin sur la table à lui donner quelques coups de pied pour qu'il se défende. Et vous avez encore le cynisme de vous étonner de sa maladresse. Voilà ce que j'appelle de la mauvaise foi. Car aucun de vous n'ignore évidemment que si presque toute la vie se passe, pour vous au moins, en jeu de l'esprit et en littérature, toute la vie n'est pas cela. Vous savez qu'il y a des occasions où, qu'on le veuille ou non, il faut s'engager un peu plus et même s'engager tout entier. C'est à ce moment-là et dans ces conditions-là qu'il vous faut voir le mystique et qu'il serait honnête que vous vous mesuriez avec lui.
Oui, les mystiques, ça ne se discute pas. On a déjà entendu son de cloche, c'est quelquefois dangereux.
On les entend tous les deux et on rit beaucoup en les entendant. Nous avons pensé pouvoir vous faire écouter cette archive parce qu'évidemment, on pourrait penser à une comparaison. Sartre-Beauvoir, Christeva Solers, pourquoi pas, non?
Non, moi je trouve que c'est toute comparaison est trahison et puis ce n'est pas la même époque.
C'est sûr,
ce n'est pas
c'est sûr, mais il y a quand même des points communs.
Vous avez raison dans le mesure où...
Lecteur de l'un, lecteur de l'autre, fécondité intellectuelle.
Permettez-moi vite de dire un mot, c'est que la voix de Julia, vous l'entendez.
Elle est je la préfère à celle-ci.
Elle est mélodieuse, elle est harmonieuse, elle est détendue.
Mais la pensée de Simone est importante.
Alors que Simone de Beauvoir, qui écrit très bien, a une voix avec de canne.
C'est le corps qui parle.
Oui, elle a une canne dans la voix, c'est très curieux. Tandis que la voix de Sartre, moi je l'adore, comprenez? Parce que ça, c'est vraiment la démonstration même que le corps sort de la voix. Sartre, avec ce petit corps, moi je l'ai vu, on était genoux contre genoux, il me parlait de Flaubert.
Pourquoi genoux contre genoux?
Et parce qu'il était aveugle, quasiment, vous comprenez? Alors on était là, l'un contre l'autre, d'une certaine façon, c'était très, très émouvant. Il me parlait de Flaubert, vous comprenez? Alors, oui, Flaubert, il était en train de finir son Flaubert, alors tout à coup, n'est-ce pas, il va dans son cabinet de toilette, et je le vois allumer ses cigarettes, je sais pas, maïs, je ne sais pas quoi. Il tirait comme un fou sur sa cigarette. Je dis, Sartre, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous comprenez, parce que Castor va rentrer bientôt, donc il faut que je fume, sans quoi ça va être... Voilà. Puis après, on va sur le palier, il me dit, bon, eh bien alors, on se retrouve dans la rue. Voilà. Donc ça, c'était un personnage absolument légendaire. C'est un des derniers écrivains sur lesquels les gens se retournaient dans la rue, vous comprenez? Sartre passait en boulevard Montparnasse pour aller à la coupole, il y avait des attroupements pour le regarder passer, cette petite peau à tabac, mais dont la voix alors perçait les murs. L'autre, c'était Mauriac, c'était un des derniers que j'ai vu les gens.
Mais pas beaucoup de voix, alors lui, il avait les voix opérées, oui.
Alors lui, vous avez vu ces vieilles, ces deux vieilles là qui sont là, elles m'ont reconnu. Bon, bref.
Non, mais moi je suis ici, contrairement au couple, parce qu'on peut parler peut-être.
Donc vous refusez,
oui,
la comparaison.
Mais écoutez, je refuse.
Comparaison n'est pas raison.
Il y a Elsa Triolet-Aragon, on a eu tout droit à tout.
Non.
Sartre et Beauvoir,
Triolet-Aragon.
Eh ben, tiens.
Donc, vous avez vu comme il s'est imité. Je vais peut-être revenir sur le couple, si vous voulez que je vous
fasse ma confession. Si... Oui. Je voudrais savoir si c'est vous imiter, Julia.
Moi, s'il fait m'imiter, si je... moi, oui. Mais moi, je suis inimitable. Non, il ne peut pas m'imiter. Non, par contre, je suis là pour dire le bien que je pense de son œuvre, parce que ces dames-là...
Vous pouvez en dire du mal, hein.
Non, non, mais ça, je ne le dirai pas. Ça, c'est... Bon,
parce que vous ne le pensez pas ou parce que vous n'osez pas affronter la colère conjugale ?
Parce que je ne passe pas vraiment... partons de là. Vous savez, récemment, avec cette histoire de mariage pour tous, on m'a demandé au forum du Monde Le Mans ce que j'en pensais. Et j'ai dit que je trouvais ça complètement un contresens parce que le mariage, pour moi, est un des beaux-arts. Alors, les beaux-arts, il n'y a pas beaucoup. Il y a la musique, la peinture, la littérature, la tauromachie. Et comme l'a dit Léris, la littérature est une sorte de tauromachie, mais le mariage est un beaux-arts comme la tauromachie.
Donc, c'est pas pour tous.
C'est pas pour tous.
Et ça se mérite.
Ça se mérite. Et nous avions à un moment donné l'idée...
C'est exceptionnel.
...de faire un livre, parce qu'on nous avait demandé... vous savez, les éditeurs donnent de l'argent pour que ça fasse des livres comme ça de grand commerce. Et on avait proposé à un moment donné de parler de mariage comme un des beaux-arts, ou comme la tauromachie. Puis finalement, on ne l'a pas fait, parce qu'on ne voulait pas donner de feuilles de route. Par conséquent, ça restera quelque chose que les gens vont deviner à travers nos romans, ou à travers une émission comme celle-ci. Mais ce qui me frappe, c'est que ces dames, y compris les plus émancipées comme Beauvoir, pour laquelle j'ai énormément d'admiration, et je lui ai dédié mon génie féminin, on a créé, vous savez, le prix international
Simone de Beauvoir,
qui va être bientôt décerné pour l'année 2013. Donc tout ça, chapeau et hommage, mais elles se sentent toujours dans l'obligation de se justifier ou de se différencier face à l'ombre que leur font leur mari ou leur compagnon. Et moi, j'ai jamais eu cette tendance ni cette tentation, parce que d'abord, Philippe Sollers m'a toujours laissé extrêmement libre dans ma vie, dans mes relations, mais aussi dans mon travail intellectuel. Et aussi parce que je considère que je lui dois beaucoup et je peux le dire sans que ça me gêne en quoi que ce
soit.
Sans
que ça vous minore.
Ni me minore, ni me fasse d'ombre, etc. Et donc, dans cet ordre des choses, je voudrais faire entendre ce qu'il dit, lui, de Sartre. Parce que la voix de Sartre, moi, je trouvais très sympathique, mais c'est pas du tout quelque chose, comme tu dis, qui casse les murs. Il y a une espèce de petit canif qui vient vous titiller les nerfs. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais c'est surtout une grande vitesse.
Force, oui.
C'est une vitesse. Et là, tu as insisté beaucoup là-dessus. La grande force et la ruse de Sartre, c'est la vitesse, c'est dans Fugue. Non pas celle de Nagité de Bocal, là, tu fais allusion à la phrase de Céline qui, pour se venger d'un article de Sartre contre lui, en état de légitime défense, a dit que Sartre était un Nagité de Bocal, mais tu dis une boule d'énergie, c'est ça qu'on a entendu tout à l'heure, une boule d'énergie tournant à toute vitesse devant vous. Et alors, pour essayer d'étayer cette impression, tu vas, parce que tu lis tout, enfin, tu es allé lire tout ce qu'il dit de sa vie. Son père l'a engendré, dit-il, au galop avant de mourir. Donc, c'est voilà, tout à fait à la manière de Sartre. Et à partir de là, il y a un autre Sartre qui se profile, qui n'est pas le grand métaphysicien, philosophe, etc. Mais le Sartre qui joue, le joueur. Ça, c'est un Sartre qu'on ne connaît pas. Et il fallait que tu vases pour que ce soit entendu. Et tu dis ceci, tu le cites. « Il n'est pas possible de se saisir soi-même comme conscience, ce qui est le souci de Sartre, sans penser que la vie est un jeu. »
Oh, c'est magnifique.
C'est magnifique. Mmh. Et aussi, Sartre, par exemple, lecteur de Stendhal. Le Stendhal avec les Happy Few. Est-ce que Sartre a compris que le bonheur, y compris le bonheur à deux, n'est donné qu'au Happy Few? Tu te demandes, et tu poses peut-être la question, peut-être pas, pourquoi? Parce qu'il a épousé la cause des foules. De ne pas désespérer Billancourt, etc. Et tu as cette remarque, un homme heureux et aujourd'hui si solitaire, il parle des couleurs aux aveugles, dit Sartre, et tu dis, un happy few, il se sacrifie à la foule.
Oui, mais alors, voilà. Ce qui est
sacrifice
très...
étrange et grandeur.
Alors, Sartre me
pas passe... de happy few, oui. Mais de unhappy many. Oui. Il remplace le happy few de Stendhal par le unhappy many.
Ah oui,
Et c'est un sacrifice.
La littérature ne fait pas le poids devant un enfant.
Mais je voulais qu'on entende ça, parce que, puisque tu ris beaucoup, on ne prend pas souvent, n'entend pas le sérieux et la profondeur de tes diagnostics.
Et le tragique même.
Voilà. Et là, on est dans le jeu, mais en même temps, le côté absolument dramatique de ces unhappy few. Unhappy many, mais unhappy few aussi, que Sartre met en scène dans ses romans ou dans sa philosophie, dans son engagement.
Il y a un passage de Sartre qui m'a toujours impressionné. Il relit les 60 premières pages de la Chartreuse de Parme de Stendhal. Et il dit, c'est extraordinaire, mais ce Fabrice, il est en train d'écrire l'âge de raison, mais mes personnages ne sont pas viables, ils sont coincés. Alors, en effet, ce n'est pas la même époque, mais Stendhal, il dit, il est prisonnier en Allemagne, etc. Il rentre, et tous les jours, moi qui suis en général très peu soigneux de ma personne, dit-il, je me rase soigneusement, je me lave, je me rase soigneusement, comme Stendhal le faisait pendant la retraite de Russie. Alors, c'est quand même... Voilà, l'ambition est quand même très grande. Ou alors, la névrose de Sartre, parce qu'il y en a une. Et que, d'abord, la littérature serait une activité névrotique, ça se discute. C'est une activité de connaissance aussi, mais il le fait. Mais c'est très subtil, les mots, c'est un livre très subtil, dont on tire en général des clichés. Mais enfin, bon, mais la névrose de Sartre, c'est quand il est à Venise, par exemple. C'est étonnant, il est complètement... Il ne faut pas oublier que Sartre est protestant. C'est quelqu'un qui est dans une sorte de rigidité. Il s'en est expliqué lui-même dans sa biographie. Mais il est protestant. Donc, face à la splendeur catholique de Venise, par exemple, il est dans un état, il disparaît, tout ça, la Grèce, il y a trop d'eau, c'est épouvantable, la ville est pourrie, Titien... Alors que Beauvoir, elle, est beaucoup plus sensible dans ses récits. Elle voit qu'il y a des enfants, elle voit qu'il y a des couleurs, elle aime bien manger. Alors, lui, au contraire, est complètement psychotique. C'est ça qui est très intéressant. Et, par exemple, toute une nuit, il marche dehors, c'est passionnant, ils sont charmants. Et alors, il la voit comme une sorte de homard. Enfin, il a des hallucinations, elle est transformée en homard. Tout à coup, voilà. Donc, tout ça est passionnant. La vie de tous ces écrivains, de même que la vie de Stendhal est passionnante. Bon, j'en ai tiré un roman qui s'appelle Trésor d'amour, où je le suis à la trace, ce qui, je le fais vivre. C'est pas comme, bien sûr, il y a des universitaires, bien sûr, il y a des écrits, bien sûr qu'il faut tout connaître, bien sûr qu'il faut tout lire. Mais à partir d'un certain moment, il faut vivre sa propre vie en ramenant à la vie des expériences qui sont en général négligées. Donc c'est ça qui me paraît le roman possible d'aujourd'hui, dans une absence de pensée généralisée et qui signe le moment où nous sommes, c'est-à-dire régressif et hyper réactionnaire. Je vais le dire avec la voix de Sartre. Nous sommes dans un moment de réaction intégrale et je tiens à le préciser ici, après les temps modernes, solaire sa raison.
Dernier mot, Julia, il nous reste 2 minutes dans
seulement.
Portrait de femme. Oui, avec vous, vous voyez, tous les deux, le temps passe à toute vitesse. Dans Portrait de femme, Philippe parle de vous et il dit que vous vous amusez, est-ce vrai ?
On s'amuse tous les deux ou que je m'amuse toute seule ?
Tous les deux, mon colonel.
Non, moi je m'amuse en pensant... Non, malheureusement, on n'a pas pu dire quelque chose qui m'amuse beaucoup, en effet, c'est que très loin de Sartre, Philippe Solers est issu du 18e siècle français. Ça, on le dit souvent, mais on n'est pas entré dans les détails de cela, et cela va justement du côté du corps, du sensible et d'une grande sensibilité à la musique du langage. Et d'autre part, c'est un catholique extraordinaire, atypique. Je voulais vous parler de son Pascal, par exemple, mais c'est un bijou, le texte. J'invite vos auditeurs à lire l'infini de Pascal. Et ce point qu'il relève, qui est le point entre l'infini bien et l'infini mal, qui constitue la mobilité de l'homme catholique, et qui décrit en disant ça, c'est la fin de son article sur l'infini de Pascal. qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal, contraire, aurait trouvé ce point. C'est le mouvement perpétuel. Et le mouvement perpétuel que vous entendez aujourd'hui dans sa voix, le fait de passer d'un Sartre à une caricature de ceci ou de cela et de rire de tout ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à ce catholicisme français, très inspiré du XVIIIe siècle, en rupture avec lui, ayant gardé ce mouvement déconstructif effervescent. Ça m'a paru très important. Ça, c'est ça l'amusement qu'il provoque, qui est un amusement à la fois baroque et catholique. Et puis, là, on s'amuse beaucoup.
Baroque et catholique, c'est le même mot. Hein.
Catholique, Pascal n'est pas particulièrement peut-être baroque.
Non, mais l'Italie, voilà. Et c'est pour ça que tu as dit le catholicisme français, que je récuse complètement. Ce sont des pauvres gens. L'Italie.
Puis l'autre amusement, qui est un grand moment de notre vie, mais amusement au sens sérieux et grave du terme, c'est le personnage de notre fils qui est dans ses romans, Jeff par exemple dans Le Secret, avec des lectures qu'ils se font sous le pommier, etc. Là, il faut voir comment notre Solers s'amuse à devenir enfant, à faire des mathématiques, à lire des livres d'enfants, à chanter du Mozart avec son fils, et qui est vraiment un enchantement plus qu'un amusement. Voilà, c'est un enchanteur.
Merci beaucoup, Julia Kristeva. Heureusement, Solers, ça continue encore pendant 2 soirs. On va continuer à parler avec vous, Philippe Solers. Et merci beaucoup, Julia Kristeva. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Philippe Palares, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.